L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local qu'on anime depuis déjà quelques mois avec Claire qui est en face de moi. Salut Claire, comment ça va ?
Salut Marie, salut tout le monde, ça fait plaisir d'être ici à Château-Gontier. Bon, j'ai vu que quelques éclaircies ce matin, mais je ne perds pas espoir, il va faire beau, c'est sûr.
Moi je crois plutôt l'inverse, je crois qu'on s'est fait enfler ce matin, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait
oui,
ah,
c'est ça.
Vous pensez qu'il allait faire beau ? Pas du tout. Cet après-midi, pas du tout en fait, la pluie, en tout cas les gros nuages noirs effectivement sont au-dessus de la Mayenne ce midi et je pense que cet après-midi ça va être à peu près pareil. Mais nous, évidemment, ce qu'on vous annonce dans cette émission, c'est pas, c'est pas comme la météo, ça va pas changer, non, non. On vous le promet, on va vous aller l'entendre. Et on va notamment parler, revenir en tout cas sur cette journée olympique qui a eu lieu la semaine dernière et sur une belle fresque réalisée par des enfants. Claire, c'est toi qui as pu voir cette fresque, justement.
Et oui, je suis un peu dégoûtée, j'ai pas pu les avoir au micro, mais ils étaient ravis d'avoir réalisé cette fresque. Ils ont fait tout eux-mêmes avec des découpages, avec de la peinture, avec des pliages, des collages, enfin ils étaient... enchanté et c'est vraiment super, un beau résultat.
Un beau résultat et un beau projet, donc on pourra écouter en tout cas les organisateurs d'ici quelques minutes. On va aussi parler des expositions d'été et en tout cas des bonus, puisque c'est d'ailleurs le nom de ce projet-là, proposé à Château-Gontier, un reportage de Juliette que vous pourrez là aussi écouter d'ici quelques minutes. Et puis, alors là c'est l'inverse, on va se projeter dans quelques jours, puisque c'est le festival le Laval Virtual, ouvert au public aussi, pour les professionnels, mais aussi au public, avec de nombreuses animations, dont certaines qui ont été organisées et proposées par les étudiants du lycée Ambroise Paré. On reviendra sur ce projet. Et puis, bien sûr, comme tous les lundis, même si là, ce sera le dernier de la saison, le coup de cœur lecture d'Emilie Ranjou. Et puis, une nouvelle série, ben oui, nous sommes lundi, une nouvelle série pour découvrir l'association Emmaüs en Mayenne.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Victoire de la majorité départementale en Mayenne, mais sans coup d'éclat.
La majorité sortante de centre droit a obtenu 10 cantons sur 17 lors du second tour des élections hier, suffisant pour obtenir la majorité absolue au conseil départemental, mais elle perd 5 cantons par rapport à 2015. A noter le succès de la gauche dans les 3 cantons de Laval, ainsi que la surprise à Mayenne, où le binôme de gauche Stéphanie Le Foulon-Antoine Valprémy l'emporte à 53 voix près. Olivier Richefoux devrait être élu ce jeudi à la tête du nouveau conseil départemental.
Christelle Morancé réélue à la région Pays de la Loire.
Pas de changement après le second tour des élections hier. L'alliance écologiste de gauche entre Mathieu Orphelin et Guillaume Garot n'a pas réussi son pari. La présidente sortante Les Républicains l'a emporté avec 46,4% des voix contre 34,9% pour Mathieu Orphelin. Christelle Morancé est arrivée en tête ici aussi en Mayenne où elle avait été pourtant devancée au premier tour par Guillaume Garot. Cette droite que je porte, libérale, européenne, centrale, forte sur le régalien, elle gagne, a-t-elle réagi. Mathieu Orphelin, lui, estime avoir levé un espoir à gauche, un espoir pour l'écologie, pour le climat, pour la justice sociale et pour l'emploi local.
2000 manifestants devant l'hôpital de Mayenne.
Mobilisation très forte ce samedi, à l'appel notamment du syndicat Force Ouvrière, pour défendre le centre hospitalier du Nord-Mayenne, où le service de chirurgie orthopédique notamment est menacé de fermeture. Une partie des opérations pourrait être réalisée désormais à l'hôpital de Laval. Et puis, autre crainte, la fermeture partielle des urgences cet été, avec aussi 200 lits en moins pendant les vacances, sans la certitude de les voir rouvrir à la rentrée.
Un camion finit dans le fossé à Herné.
Un chauffeur routier a perdu ce matin le contrôle de son véhicule à l'entrée d'Herné sur la départementale 31. Vers 9h30, après un croisement compliqué avec un autre camion, il a quitté la route. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais une circulation a été mise en place le temps que le camion soit dégagé.
5 soirées et concerts organisés par le 6x4.
L'association Poc Poc, qui gère la salle de concert lavalloise et le festival des 3 éléphants, voulait se rattraper de n'avoir pas pu proposer de la musique live lors du festival en mai cette année. Alors, 5 concerts se déroulent du 1er au 8 juillet, avec notamment les rappeurs Soso Maness, Vadek, mais aussi Johanna ou Rookin.
J-2 avant le passage du Tour de France en Mayenne.
Et la préfecture de la Mayenne, justement, met en place dès aujourd'hui un numéro de téléphone gratuit auquel répondra la cellule d'information du public activée en préfecture. Il faut appeler le 0800 713 653 et pour retrouver toutes les informations pratiques, le stationnement, les déviations ou les animations par exemple, une carte interactive est à retrouver sur m-mayenne.com/tour. À noter que des navettes gratuites transporteront les spectateurs du parking de l'Hippodrome à l'espace Mayenne et au centre-ville de Laval.
Nouveau record pour Gabriel Bordier.
Le marcheur Saint-Berthevinois s'est imposé hier au championnat de France d'athlétisme sur le 10 km, titre qu'il remporte pour la deuxième fois consécutive avec en prime un nouveau record personnel, 39 minutes 31 secondes et 61 centièmes. Une belle performance avant les Jeux Olympiques de Tokyo dans un mois où il est qualifié pour les 20 km marche. Et justement, les Jeux Olympiques, avant les Jeux Olympiques, il y a eu la journée olympique et paralympique le 23 juin prochain, le 23 juin dernier, un moyen de promouvoir les valeurs du sport de façon originale, Claire.
Et oui, une fresque a fait son apparition au CDOS, le comité départemental olympique et sportif de Laval. Elle a été réalisée par des enfants pris en charge par l'IME, l'Institut médico-éducatif, lors d'un concours des écoles, grâce au soutien de l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. On peut y voir inscrit amour, respect et excellence, trois valeurs du sport.
On a pris du temps avec les jeunes pour expliquer justement qu'est-ce que les Jeux Olympiques, à quoi correspondent les anneaux, les symboles, etc. Et suite à ça, avec les jeunes, on a regardé comment on pouvait mettre en place cette œuvre-là. Donc ils ont décidé de mettre les anneaux et la flamme. Et puis après, on est parti sur les valeurs aussi qui nous semblaient essentielles de faire apparaître. Et après, donc on s'est mis au travail et les jeunes ont réalisé l'œuvre donc avec de la peinture et on a utilisé un rétroprojecteur en fait pour projeter les anneaux, la flamme et les trois mots. Les jeunes ont rempli à la peinture et les mots sont remplis avec des drapeaux, les symboles et les différents pictos des sports en fait.
Ceux qui ont tout fait, après nous on était là pour un petit peu les guider, faire les finitions évidemment.
Ils étaient intéressés et s'intéressaient justement aux Jeux Olympiques en posant pas mal de questions justement. C'était plutôt sur tout ce qui était géographie en fait, les différents pays, etc.
Bah, les jeunes étaient contents d'avoir participé, on voit qu'ils sont contents ici. Donc.
Elliot, est-ce que t'es content toi ?
Ouais.
Ouais.
Alors, bienvenue à Jacob, je suis président de l'UCEP 53. Ça fait partie du programme de l'UCEP, de la programmation annuelle et de la participation à la semaine olympique et paralympique. Et puis, la participation évidemment des IME avec les écoles affiliées pour réaliser des projets, pour vivre des rencontres.
Donc Fabien Huard, délégué départemental de l'UCEP. Ça fait quelques années déjà que l'IME participe à nos actions, donc ils s'inscrivent en effet dans le programme de l'UCEP et tous les ans on mène des actions communes. Et cette année en effet, ils se sont inscrits au projet de la semaine olympique et paralympique. Ça coule de source entre guillemets qu'ils participent à ce projet-là et on sait à chaque fois que quand ils participent à un projet, ils s'investissent totalement et ça ne m'étonne pas qu'ils aient été lauréats de ce concours.
L'idée c'est de créer une dynamique vers les Jeux Olympiques à Paris en 2024 et puis de faire en sorte que tout le monde participe, que le sport ne soit pas ségrégatif avec les valides d'un côté, les personnes en situation de handicap de l'autre, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, mais que tout le monde participe à un projet commun, collectif, pour transmettre des valeurs justement d'amitié, d'excellence, de solidarité. L'idée c'est qu'ils puissent participer ensemble, grandir ensemble, faire du sport ensemble, voilà, qu'ils soient scolarisés à l'IME ou dans n'importe quelle école, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, le principe c'est qu'ils pratiquent le sport.
Et c'est surtout aussi intéressant pour les jeunes de classe ordinaire de travailler sur l'empathie, sur la solidarité, etc.
C'est une manière de faire société, de grandir ensemble, qu'il n'y ait pas de différence qui s'opère entre les enfants.
Et cette fresque est à retrouver au CDOS de Laval et évidemment en photo sur notre compte Twitter.
Et oui, évidemment, comme ça vous pouvez vous rendre compte de tout ce qu'on vous a décrit dans ce reportage, évidemment. Cette photo, donc, sur notre compte Twitter. Et puis, si vous habitez à Château-Gontier, vous avez peut-être déjà remarqué la présence d'un arrosoir à taille humaine devant la mairie. C'est une œuvre de l'artiste Lilian Bourgeat qui s'inscrit dans le dispositif bonus d'été proposé par le centre culturel Le Carré. Maëlle Grenier, son directeur, et Bertrand Godot, le directeur de la programmation art contemporain, donnent quelques explications au micro de Juliette.
Bonus d'été version 1, en fait, c'est une, comme son nom l'indique, une proposition supplémentaire qui n'était pas prévue dans la programmation initiale et qui est rendu possible par un soutien spécifique de la DRAC Pays de la Loire et en concertation avec la collectivité du Pays de Château-Gontier pour amener voilà, des propositions inattendues pendant l'été qui sont égrenées là au mois de juillet et puis ensuite vers la fin août. Des propositions qui soient ou en art contemporain ou en art vivant pour amener les gens à voilà, déjà à sortir, à retrouver le plaisir de, voilà, d'un échange autour d'un objet culturel, quel qu'il soit. Et donc là, on a souhaité, à travers cette installation, proposer une forme d'interrogation poétique de notre espace public sur Château-Gontier.
Donc l'œuvre de Lilian Bourgeois, c'est un arrosoir, mais qui porte le nom également de vaisseau de jardin. C'est un peu comme quand vous êtes chez vous et que vous portez votre arrosoir à la main et vous avez cet objet dans la main qui peut faire penser un peu à un vaisseau de Star Wars ou comme à un jouet un peu. Voilà. Donc l'objectif de l'artiste, c'est toujours d'agrandir un peu notre réalité et ses objets et de faire des fictions voilà, à partir de ces objets, les détourner de leur sens et de les emmener vers une autre poésie, on va dire.
On a deux ateliers d'art plastique qui sont proposés effectivement avec Grégory Markovic d'une part et Jacques Albert d'autre part. L'atelier avec Grégory Markovic donc, autour de la technique du monotype aura lieu le samedi 3 juillet de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et un deuxième atelier qui s'appelle Trompe-nez avec Jacques Albert sur voilà, un travail à partir de portraits photographiques qui sont détournés avec un petit peu d'humour. Ça aura lieu le samedi 10 juillet, pareil, 9h30 midi et de 13h30 à 17h. Ça permet en tout cas voilà, de retrouver un petit peu d'activité collective, de découverte aussi d'une technique qui sont des techniques propres et particulières à chaque artiste. Donc on propose ça dans cette première version. Il y aura une deuxième version du bonus d'été qui s'activera à partir de la mi-août ou fin août pour un deuxième volet de proposition autour de l'art vivant.
Et les ateliers proposés en juillet sont destinés aux adultes et aux adolescents à partir de 15 ans. Le nombre de places est limité. Vous pouvez réserver votre place au 02 43 09 21 52 ou à l'adresse mail suivante contact@le-carré.org. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Carré. On en parle d'ici quelques minutes puisque le Laval Virtual Festival revient d'ici quelques jours. Ce sera après Play It Right de Sylvain Esso.
When the sounds come together so close to my face, it's no wonder we wonder what's taking place. Oh, I feel like an animal in the night. Play it right, play it right. Devotion, I would be more than a small human with her head pressed against your mouth in motion. Play right, play right.
We're
Picasso, Play It Right jusqu'au bout dans l'AJT du local. La 23e édition du Laval Virtual Festival se fêtera donc cette année du 3 au 11 juillet dans toute la ville. Le salon dédié à la réalité virtuelle, l'AVR et aux nouvelles technologies est donc bien maintenu cette année, mais impossible de citer toutes les animations. Il y en a plus de 70 entre le test de sport collectif en virtuel, du cinéma en VR, une fresque géante interactive ou encore du karaoké virtuel. Certaines de ces animations ont été créées et portées par des étudiants du lycée Ambroise Paré à Laval qui se sont beaucoup investis depuis le début de l'année autour de ce projet, épaulés par leur enseignante.
Bonjour, je m'appelle Anne Postec et je suis enseignante au lycée Ambroise Paré en classe de BTS NDRC.
Et donc justement, cette classe de BTS NDRC, elle participe, en tout cas elle va participer au salon du Laval virtuel début juillet. Comment est né ce projet ?
Alors, ce projet est né lorsque l'association Laval Virtual s'est présentée au lycée Ambroise Paré. Ils étaient en quête, en recherche de bénévoles pour participer à leur salon et au futur festival. Et je les ai approchés, j'ai approché la chargée de communication en lui disant que ça m'intéresserait beaucoup, pas forcément d'être bénévole, mais bien sûr de le faire d'un point de vue bénévole, mais de monter un projet avec eux à l'année pour Laval Virtual, que les étudiants s'impliquent. Alors après, il fallait définir le contexte, les modalités, mais qu'on puisse collaborer ensemble. Voilà, il est né comme ça. Et puis, ils sont revenus vers moi deux jours après en me faisant une proposition donc de collaboration, de projet à mener. On ne savait pas très bien combien de temps ça allait durer. Et puis finalement, ça a duré toute l'année.
Et c'est un projet qui est directement lié à leur parcours et aux enseignements, et en tout cas à leurs apprentissages, puisque ce sont des étudiants qui ont quel objectif ? On est dans quel secteur d'activité ?
Alors, on est dans le secteur commercial. Donc, c'est des étudiants qui travaillent sur la relation client avec une approche un peu nouvelle, parce que c'est un BTS qui a été réformé il y a 2 ans. Et à la relation client classique, terrain, face à face, s'est ajoutée la dimension digitale. Le BTS NRC plus connu est devenu le BTS NDRC, donc on entend bien le D de digital, et donc les étudiants ont une approche de la relation client autant maintenant donc sur le terrain en face à face que par le internet, les réseaux sociaux.
Justement, là, ce projet avec le salon Laval Virtual, ça rentre directement parmi les compétences qu'ils doivent acquérir aussi. Quels sont justement les grands objectifs de ce projet ? Comment les élèves et les étudiants, d'ailleurs, plutôt, vont être impliqués et seront présents même le jour J ?
Oui, alors c'est le projet tient en quatre grands temps qui correspondent aux attentes du référentiel du BTS, c'est-à-dire le programme du BTS. Avec un premier temps qui était la conception d'animation, d'événements. Donc là, on est dans le cœur aussi de leur nouveau référentiel. Donc ils ont travaillé pendant 2 mois à la conception d'animation. Donc ensuite, le deuxième temps de ce projet, c'est la recherche de partenaires. Et là aussi, on est en plein dans le référentiel, puisqu'on approche un partenaire avec un projet, on négocie. Donc ils ont aussi travaillé sur cet aspect-là et qui rentre complètement dans les attentes de l'examen. Donc des partenaires, alors peut-être qu'on en reparlera, mais des partenaires qui peuvent être techniques ou plus commerciaux. Et puis troisième temps de ce projet, c'est la partie communication. Et communication, on rejoint là ici le D digital, c'est la communication digitale. Donc on travaille sur les réseaux sociaux, plus spécifiquement sur un réseau, à savoir Instagram. Et donc là encore, les étudiants ont pour objectif de créer une communauté, de créer du contenu, d'interagir avec leur communauté. C'est le troisième temps. Et puis enfin, le quatrième temps, ça va être le temps tant attendu, qui est la concrétisation de ce projet qui aura 9 mois.
déjà 9 fois pour ce projet. On va justement rentrer un petit peu plus dans les détails de ces différentes missions qui ont été confiées aux étudiants, et notamment par rapport aux animations. Qu'est-ce qui sera proposé, en tout cas, lors des deux week-ends du 3 au 11 juillet ?
Alors, il y a au total, la classe s'est partagée en 6 groupes. Donc, on va proposer 6 animations, donc dans le cadre du Laval Virtual Festival. Alors, en animation, sans non plus trop dévoiler, parce qu'il faut qu'il y ait un effet surprise, il va y avoir une animation à la Médiapole, avec des dessins qui s'animent, des recherches de QR codes. Il y aura aussi, dans le cœur de Laval, du Vieux Laval, une chasse aux QR codes, notamment en partenariat avec Laval Cœur de Commerce. Il y a une troisième animation qui consiste en un karaoké virtuel. Il va y avoir des jeux en VR, hein, en réalité virtuelle. Donc ici, ça va se passer dans les locaux de Virtual & Co, avec une association aussi qui s'appelle Red Fox. Et une animation que j'aurais envie d'appeler Figital, hein, physique et digital, avec une expérience qui va être autant à travers son smartphone de l'e-gaming, et puis après, on s'affronte cordialement, hein, mais sur le terrain, le City Stade de Decathlon. Il en manque un. C'est un concours de graphisme, cette fois, alors qui va pouvoir se faire avec des applications telles que Snapchat, Instagram, à partir d'une photo prise dans le lycée Ambroise Paré, qui est un lieu magnifique. Hein. Et donc, à partir de cette photo, il va falloir apporter des idées graphiques, du dessin.
Donc, on l'a entendu, ça fait bien 6 animations, en tout cas, lors de ce Laval Virtual Festival, qui seront proposées par les étudiants. C'est vrai que, dit comme ça, si on rajoute en plus la recherche de partenaires, la communication en ligne et la présence le jour J, on se rend compte que ça fait beaucoup de travail, mais j'imagine que ça permet aussi, on l'a déjà dit, de solliciter en tout cas beaucoup de connaissances et de compétences dont ils pourront ensuite se servir pour eux dans leur vie professionnelle.
Oui, je crois que c'est une vraie expérience terrain. C'est le genre de projet qui donne du sens au cours. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. En plus, avec un challenge qui est fort, hein. Laval Virtual, c'est un acteur important à Laval, en Mayenne, en France. Donc oui, je pense que ça va être c'est une expérience marquante, je pense, pour les étudiants. Ils le disent d'ailleurs, hein. Même si parfois ils se disent, oh là là, il y en a beaucoup dans le sac à dos, c'est un peu lourd, mais avec le plaisir de voir qu'on va jusqu'au bout, on sait ce qu'on a traversé avec des étapes, des victoires à chaque étape. Donc déjà la première phase qui était de créer des animations, de les proposer à Laval Virtual, d'avoir leur aval, enfin leur accord, tout ça c'était des jolies victoires. De réussir à convaincre des partenaires de travailler avec eux, là encore quelle victoire. Donc et puis d'animer leurs réseaux sociaux, c'est plutôt sympathique. Donc après il faut qu'ils apprennent justement à passer à trouver la dimension professionnelle de cette communication. Donc oui, c'est un parcours qui est, comment je pense, et ils le disent d'ailleurs, hein, qui est enrichissant et motivant pour eux.
Comme vous le disiez, ils voient en plus le résultat à la fin, ce que ça va donner. Ça doit être aussi une fierté de se dire, on a réussi finalement dans l'année à faire tout ça, à travailler ensemble aussi, puisque c'est là pour le coup vraiment un projet d'équipe.
Ah oui, les collaborations, bien sûr, de découvrir ce que chacun dans une équipe est capable d'apporter, de voir les complémentarités, de se dire, oui, toi, t'es vraiment bon, t'es un créatif, ou alors, moi, j'écris bien, ou je suis plus à l'aise en face des partenaires. Donc oui, il y a cette dimension qui est importante aussi, et que chacun trouve sa place, que les complémentarités se jouent. Ah oui, c'est essentiel. Puis on le sait, c'est une bonne préparation à la vie, parce qu'en entreprise, on travaille rarement seul, hein. Donc il faut que chacun puisse se reconnaître dans ce qu'il fait et puis être reconnu par l'autre.
On le sait, avec la crise sanitaire, ça n'a pas été une année facile pour mener des projets de manière générale. Est-ce que ça a eu un impact là aussi sur la préparation et puis jusque-là, jusqu'au jour J, pour mener tout à bien comme les étudiants le souhaitaient ou l'avaient imaginé?
Alors je dirais que ça n'a pas été très compliqué, d'une part parce que les étudiants étaient, les classes de BTS ont été en présentiel pour la majorité de l'année. Alors on a eu une petite période où on était effectivement en distanciel. Alors là on a fait du Zoom et c'était plutôt pas mal. Justement c'était une autre façon de... Une autre façon de se retrouver, de se rencontrer, de faire cours, entre guillemets, parce que c'était pas des cours, ce sont des échanges. C'était les étudiants qui présentaient le travail qu'ils avaient pu mener pendant les semaines pendant lesquelles chacun était chez soi, avec une autre façon d'approuver. Donc, parce qu'il y a le chat, on peut prendre la parole, il y a le partage d'écran. Donc, tout ça, c'est plutôt bien organisé. Donc, même le distanciel, je dirais qu'on en a assez bien profité. Alors, c'est aujourd'hui où là, on est plus en distance. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis toute seule à vous rencontrer. J'aurais préféré être accompagnée par des étudiants. Mais ils sont en stage pendant la semaine. Pour certains, ça se prolonge le samedi. Et puis pour d'autres, ils sont avec des petits boulots le samedi, etc. Ou un petit peu éloignés en Normandie, à Angers, etc. Donc là, on est vraiment éparpillés. Alors là, c'est peut-être la période la plus, je dirais, la plus chargée pour eux, parce qu'effectivement, il y a des partenariats qui ne sont pas complètement finalisés. Il y a de la logistique de projet qui est encore à affiner. Et il y a la communication, les réseaux sociaux qui sont à mener. Mais bon, globalement, alors on s'est créé un groupe Snapchat. Et donc, on a notre côté, je dirais, front office qu'on montre, c'est sur Instagram. Et puis après, tout l'outillage, comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Ça se passe, on le fait sur notre groupe Snapchat.
Vous parliez justement tout à l'heure de ces échanges et non pas d'être en cours. Ça veut dire que là aussi... Forcément, quand on travaille sur un projet qui va se concrétiser, on a une posture bien plus professionnelle, peut-être qu'on peut l'avoir sur des projets fictifs, je ne sais pas, en cours ou autre.
Oui, le terme projet ici s'applique parfaitement, c'est-à-dire qu'on est dans une logique projet, on est dans une logique où on construit, on bâtit, on est dans un chemin, on ne sait pas vraiment où on va. Hein. On a un objectif, c'est d'être présent à Laval Virtual Festival, mais après le chemin, on explore, on se concerte, on se dit oh, on aurait pu faire autrement, on projette, c'est très transversal, hein, puisque effectivement, en face d'eux, en juillet, ils auront des vrais gens. Sur les réseaux sociaux, ils ont des vrais followers. Donc effectivement, il n'y a pas un chemin tracé, c'est ça. C'est le Tao, hein. On trace son chemin, on crée son chemin. L'aventure est dans le chemin.
Est-ce que vous savez déjà si peut-être ça pourrait être amené à être reconduit l'année prochaine ou pas ?
On aimerait bien. On adorerait. Là, il va falloir qu'on en discute avec l'équipe de Laval Virtual Festival. Mais oui, on adorerait. Si un message que Laval Virtual Festival peut retenir aujourd'hui, c'est oui, on veut recommencer.
Et alors, pour justement retrouver tout le programme des animations qui sont prévues et donc l'implication des étudiants, justement, où est-ce qu'on peut aller ?
Alors, notre communication, elle est sur Instagram. On a au total 7 comptes, 6 comptes étudiants. Donc, chaque équipe, chaque animation a créé son compte Instagram, communique donc sur son animation, crée du contenu à ses propres followers. Et il y a un compte plus centralisateur qui s'appelle, donc parce que notre projet a pris le nom de Virtual by Ambroise Paré. Et donc le compte @virtualbyambroiseparé centralise toutes les animations et renvoie aux différents comptes de chaque équipe.
Le compte Instagram, donc, pour retrouver toutes leurs animations, je répète, c'est donc @virtualbyambroiseparé. Et pour retrouver l'ensemble du programme ouvert au grand public, rendez-vous sur festival.laval-virtual.com. On revient d'ici quelques minutes après une pause musicale assurée par Deluxe avec leur morceau I Got. Qui boit ?
Can't make this news a win. I got rules, I got way. I can flip this over quick. I got tools, I got tricks. I can make this news a win. I got rules, I got way. I can flip this over quick. 6 of 6 and 8, come for Jazzy, sure as pie. 3.4 or 5, I come alive, my baby, die for free. Walk a stick, dramatic team, dancing like you never sing. It's like you never. Been trying to build your plasma screen. Toms. I got the bomb in my palm, but not too strong. I hit the bomb in my thumb. Where did I become? I'm lippy calm. I finally find an oasis, it's in between the highest pinnacle and place, the temple cream. I fit the regular place. That's what I mean. Yes, I'm a boss like you ain't seen, never seen. I got tools, I got tricks, I can break this news away.
Deluxe avec I Got dans l'agité du local que vous écoutiez donc tout de suite. Et puis tout de suite aussi un dernier conseil lecture, le dernier de la saison en tout cas dans cette émission, avec une idée de livre à se procurer pour l'été. On écoute Christophe.
Emily Ranjou à Château-Gontier vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire pour les grands et les petits.
Bonjour l'autre radio, bonjour à tous les auditeurs. C'est pas souvent qu'on parle de livres de poche, mais parce qu'il vient de sortir aux éditions Folio, j'ai envie de vous présenter et de vous emmener en Sibérie avec le livre de Johann Barbereau « Dans les geôles de Sibérie ». Ce livre n'est pas un roman, c'est un récit et tout est vrai. Voilà, c'est déjà partez du principe que ce que Johann Barbereau va vivre, c'est la vérité. Bien sûr, c'est sa vérité, mais en tout cas, il va nous raconter comment, il y a quelques années, il est allé en Sibérie, à Irkoutsk, pour devenir le nouveau directeur de l'Alliance française en Russie, une alliance qui promeut la langue française partout dans le monde. Et Johann Barbereau, qui est un passionné de la culture russe, de la littérature, de la langue, enfin voilà, c'est un amoureux, c'est un russophile, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime la Russie. Il va être embauché et il va ici partir avec sa femme et son enfant et vivre à Irkoutsk pour essayer de redynamiser la langue française dans cette ville. et il va y arriver. En l'espace de 2 années, eh bien, il va rencontrer de très beaux succès, il va apporter un souffle culturel nouveau à la ville et tout le monde en sera plus ou moins content. Puisque un matin, à 5h du matin, eh bien, Johann Barbereau va voir débarquer chez lui des hommes cagoulés qui vont le menotter et qui vont l'emmener au commissariat le plus proche. Et là, bien évidemment, c'est l'étonnement, c'est la sidération, puisque il va être accusé de quelque chose d'horrible dont je ne vais pas vous parler, parce que c'est ça aussi la surprise du livre. Il va être accusé de quelque chose d'abominable, bien évidemment, qu'il n'a pas commis. Sauf que voilà Johann Barbereau qui commence à mettre le doigt dans un engrenage infernal, celui de la suspicion, mais celui aussi de l'enfermement, de la prison et de la privation de tout droit. Parce qu'il faut savoir qu'en Russie, aujourd'hui, il ne faut pas trop avoir de problèmes et il ne faut pas trop déranger l'État, les politiques, les dirigeants. Et Johann Barbereau était peut-être un de ceux-là. En tout cas, ce livre va nous raconter cette histoire incroyable qui tient autant du fait divers que du roman policier, que du roman d'aventure, puisque Johann Barbereau va devoir faire confiance en lui, en ses forces, en son courage, pour se sortir de ce traquenard infernal. Ça s'appelle « Dans les geôles de Sibérie » de Johann Barbereau, en édition de poche chez Folio.
Retrouvez « Aime lire » en joue, 10 place Paul Doumer, à Château-Montier, et sur l'autre radio.
Et sur l'autre radio, vous l'avez compris, plus dans cette émission, mais en tout cas toujours le mardi à 7h30, c'est-à-dire demain. En même temps que vous prenez votre petit-déj, ou en tout cas pour les plus matinaux d'entre vous, vous pourrez l'écouter. Sinon, elles sont toujours disponibles sur notre site l'autreradio.fr. Et puis lundi, nouvelle série de reportages pour se plonger dans le quotidien d'une association bien implantée en Mayenne, Emmaüs. La communauté Emmaüs est installée à Villiers-Charlemagne depuis de nombreuses années, mais d'autres espaces de vente existent à Laval et à Mayenne. Zoom cette semaine sur la communauté où vivent et travaillent plusieurs dizaines de compagnons. Romain Choupitre, le directeur adjoint de la communauté, nous en dresse l'historique.
Alors la communauté, elle a été créée en 1988 par le biais de Paul Lézé et de Louis Amar, qui sont les deux fondateurs à l'origine. Le père Paul Lézé d'une rencontre avec l'abbé Pierre, et puis donc Louis Amar, le premier président. Et la signature de l'achat de la communauté Emmaüs à Villiers-Charlemagne s'est fait juste en fait avant la mort du père Lézé, qui n'a pas vu la finalité de son projet. Mais c'est ainsi qu'a commencé l'histoire. La communauté Emmaüs de la Mayenne, c'est une petite sœur de la communauté Emmaüs du Mans. Donc au départ, c'est le responsable du Mans qui venait de temps en temps, et il y avait 3 compagnons au départ. Et aujourd'hui, on a 60 places d'accueil. Et on était à environ 40 places d'accueil il y a 5 ans. Une grosse évolution ces 5 dernières années. La communauté est un acteur important sur le département, à la fois de la solidarité, mais aussi du recyclage. Et puis on a répondu à cette demande croissante de demande de places d'hébergement. Donc on essaye de trouver les outils nécessaires pour pouvoir faire les recettes, les rentrées d'argent nécessaires à faire de l'accueil, puisque c'est le principe d'Emmaüs, c'est que le compagnon vit de son travail. Il y a toutes les semaines des personnes qui téléphonent pour avoir une place, mais il faut qu'on ait un équilibre financier, et cet équilibre financier, il se fait par l'activité économique qui est liée au recyclage, au réemploi, à la vente d'objets de seconde main. Et c'est cette activité qui alimente le cœur du projet d'Emmaüs, qui est l'accueil inconditionnel, l'hébergement et les solidarités qui sont faites. Effectivement, tous les ans, il y a des compagnons qui passent et qui réussissent leur projet et qui repartent. Et là, on a une accélération du nombre de personnes qui repartent vers l'extérieur et qui se réinsèrent dans un dispositif plus classique. On est en cours de validation d'un dispositif qui est un dispositif passerelle, qui va permettre aux compagnons de la communauté de pouvoir être accompagnés sur une période de 3 à 6 mois pour pouvoir sortir sereinement et aller travailler à l'extérieur. Donc ça, c'est un nouveau dispositif qu'on met en place au service de la réinsertion des compagnons qui sont accueillis ici. Le dispositif prévoit en fait l'allocation d'une maison passerelle qui permettra à ses compagnons en dispositif passerelle de sortir de cette pression économique pour qu'on puisse leur laisser le temps nécessaire à la construction de leur projet. Et c'est une passerelle, on peut revenir, à l'inverse d'un dispositif tremplin où au milieu c'est le vide. Là, l'idée c'est que ça soit sécurisant. Pour encourager, favoriser et rendre la sortie de ceux qui ont des projets le plus sécurisé possible. Quelqu'un qui retomberait, c'est quelqu'un qui reviendrait, mais qui reviendrait fragilisé. Donc l'intérêt, c'est qu'on lui donne toutes les ressources pour pouvoir sortir sereinement et se construire et après être dans ses projets de vie à l'extérieur.
Ce dispositif sera mis en place d'ici quelques jours. L'association va y consacrer cette année 30 000 euros. Demain, on part en visite dans les différents espaces de travail de la communauté Emmaüs, donc à Villiers-Charlemagne. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à 19h, il y aura Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque de Geoffroy, notre stagiaire de la semaine dernière. Et nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'Agité du local.